entrevues. Radio Shalom Bourgogne 97.1 FM.
Chères auditrices, chers auditeurs de Shalom Bourgogne, vous êtes dans votre émission Gardien de mon frère. J'ai le plaisir aujourd'hui d'être avec Madame Annabelle Guichard, qui est une des fondatrices d'une nouvelle association sur Dijon qui s'appelle La Voix du Harcèlement, une association qui est à l'écoute des élèves et de leurs familles. Bonjour Madame.
Bonjour.
Vous allez peut-être définir tout de suite cette association. Quel est son objectif? Quelle est son ambition?
Alors, l'objectif actuel est de venir en accompagnement des enfants harcelés scolairement et de leurs familles. Un accompagnement après... La mise en place du dispositif phare, après le dépôt de plainte, si dépôt de plainte il y a eu, c'est pour éviter que les familles se sentent seules face à ce problème qu'est le harcèlement.
D'accord. Alors peut-être tout de suite, pour que nos auditeurs soient au clair, vous parlez d'un dispositif phare. De quoi s'agit-il ?
Le dispositif phare, c'est un dispositif qui est obligatoire depuis la rentrée 2023 dans tous les établissements scolaires, qui vise en fait à sensibiliser les enfants, mais également protéger les enfants potentiellement harcelés, on va dire.
Très bien, donc dispositif phare est le résultat, je crois, d'un travail assez long dans le monde de l'enseignement général, puisque c'est l'éducation nationale et les établissements sous contrat, j'imagine,
oui. Hein,
établissements dits privés. Alors comment ce dispositif a été mis en place et comment vous entrez en lien avec ce dispositif?
Alors on ne se substitue pas à ce dispositif en fait, hein, puisque le dispositif s'applique au sein des établissements. Nous on vient en accompagnement, on va dire plus que, voilà, il y a le dispositif phare, mais il y a aussi le 30-18, le 30-20, Le souci, c'est que compte tenu de l'explosion, on va dire, du harcèlement, quand c'est devenu une priorité nationale pour le gouvernement, c'est des services qui sont très souvent saturés. Et l'association est justement là pour, on va dire, accompagner les parents, les soutenir moralement, leur dire ne baissez pas les bras, voilà, tenez bon. On va vous guider, vous aider, vous soutenir surtout. Ça, c'est l'objectif premier. Dans un second temps, ce sera d'aller chercher des subventions pour former en fait les membres de l'association afin d'intervenir dans les établissements scolaires en parallèle du dispositif phare par le biais d'ateliers pédagogiques.
Ça sous-entend que vous avez un agrément, une reconnaissance des institutions éducatives.
Exactement, oui. C'est-à-dire que les formations qu'on va chercher seront certifiées Calliope afin qu'on puisse intervenir dans les établissements scolaires.
D'accord. Vous avez déjà un agrément éducation nationale ?
Pas encore.
D'accord. Donc c'est une démarche. Alors j'ai envie de dire pourquoi, parce qu'on entend beaucoup de choses autour de cette affaire-là, mais c'est souvent très imprécis ou très ponctuel suite à un événement grave. Il y a une urgence, vous dites. Alors peut-être rappeler le diagnostic qui est beaucoup discuté sur les chiffres, mais l'état actuellement du harcèlement des jeunes sur les jeunes, des enfants sur les enfants et des jeunes jusqu'à la majorité, disons.
Oui.
Vous parliez d'une explosion du phénomène. Est-ce que vous pourriez en dire quand même quelques mots?
C'est-à-dire que le harcèlement existe depuis toujours. Faut pas se voiler la face, ça existe depuis toujours. C'est simplement qu'on a mis un mot maintenant sur ce qui peut se passer au sein des établissements scolaires afin justement de... ne plus minimiser les faits, ne plus dire c'est un problème de camaraderie, c'est un problème d'amitié, voilà, ils sont en pleine construction. Non, il y a eu tellement d'enfants qui sont passés à l'acte, qui ont voulu protéger leurs parents en ne disant rien, que justement ça a alerté le gouvernement, ce qui est une très bonne chose en soi, et ils ont décidé justement de mettre en avant ce harcèlement.
Oui, l'on dit, alors des chiffres sont très discutés parce qu'il n'y a pas de statistiques convergentes précises aujourd'hui, mais on parle surtout chez les garçons, d'un garçon sur six, en tout cas d'un jeune sur dix depuis la petite enfance,
oui.
Qui serait victime d'un harcèlement grave. Hein, je veux dire, c'est pas seulement de choses tendues, d'indélicatesse qui peuvent arriver dans les relations humaines, même quand on est tout petit. C'est vraiment des actes qui peuvent être humiliants, que ce soit physique ou verbal. Hein, on parle bien de choses qui peuvent être qui peuvent structurer ensuite une vision négative de soi-même, des troubles, voire même des dépressions, enfin des choses qui peuvent aller jusqu'à des actes très graves.
Oui.
Mais malheureusement, on parle beaucoup des suicides, ce qui évite de parler de la masse du problème, et en fait qu'il faudrait le traiter structurellement, notamment dans le monde de l'enseignement.
Tout à fait. Le harcèlement, ça peut commencer par des petites choses, hein, c'est-à-dire des surnoms pas forcément appréciés, des taquineries, des grimaces, des moqueries. Voilà, à partir du moment où on arrive aux insultes, là, on monte déjà d'un degré. Et si, dès le départ, il n'y a pas d'intervention, à savoir que si, dès le départ, on ne dit pas, voilà, le surnom que tu m'as, le surnom dont tu me donnes ne me plaît pas, si l'enseignant n'intervient pas pour stopper, j'ai envie de dire, c'est en ça aussi que sert le dispositif phare. Un élève va trouver son enseignant et lui dire, un tel m'appelle comme ça, ça ne me plaît pas. C'est à l'enseignant d'intervenir et de demander à l'autre, écoute, voilà, il est venu me trouver, le surnom que tu lui donnes ne lui plaît pas, est-ce que tu peux, s'il te plaît, arrêter ?
Ça, c'est un schéma idéal parce que ça veut dire qu'il y a un enfant qui a confiance dans un professeur, ça veut dire que ça se passe dans la classe et que le professeur a une capacité d'intervention. Mais il m'a semblé qu'avec les réseaux sociaux ou d'autres phénomènes de groupe et d'emprise de groupe par des lâchetés, des gens qui assistent à ça et qui finalement adorent voir des autres se faire embêter, voire humilier, il y a des choses qui échappent à l'enseignement et au cadre scolaire, et aujourd'hui notamment avec les téléphones.
Tout à fait. Le cyberharcèlement, c'est une vraie... une vraie cause aussi. Et effectivement, ce qui se passe, c'est que les enfants, maintenant, avec la technologie, y ont accès déjà de plus en plus jeunes. Et forcément, le cyberharcèlement arrive de plus en plus tôt. Et les parents n'ont pas forcément non plus le contrôle là-dessus. Et les enfants vont avoir tendance à protéger les parents, à ne pas vouloir trop les inquiéter, à ne pas vouloir trop... ce qui n'empêche absolument rien, ce qui n'enlève absolument rien, en fait, au mal-être de l'enfant harcelé.
Oui, sachant qu'aussi, parfois, il y a les parents, mais il y a aussi le phénomène de loyauté au groupe, et même celui qui est humilié peut être aussi loyal à un groupe très puissant auquel il a appartenu et dont il n'arrive pas à se séparer.
Oui. Oui, mais souvent, les choses arrivent un petit peu comme ça, c'est-à-dire que ça se déclenche par, on était amis avec quelqu'un, on a une divergence d'opinion, c'est des choses qui peuvent arriver, mais maintenant, on n'arrive plus à prendre du recul par rapport à la situation et ça dégénère très vite en fait en harcèlement. Et effectivement, il y a ce vrai... problème de groupe, hein, c'est-à-dire que le harceleur a besoin d'un public. Donc s'il n'y a pas de spectacle, il n'y a pas de spectateur. Et c'est en ça aussi que l'association souhaite intervenir, c'est pour éviter que le harcelé devienne plus tard un harceleur.
D'accord, parce que c'est un phénomène qui est décrit, je crois. Hein.
Ah oui, tout à fait, qui est reconnu par les psychologues.
Mmh. Alors évidemment, on parle des enfants, on parle de leur famille, mais il faut parler des institutions et des adultes qui enseignent notamment, mais pas que. Notamment en Allemagne, il y a eu des études qui ont été faites sur les micro-violences éducatives ordinaires, qui sont justement le fait des enseignants et de l'institution, enfin surtout des enseignants. Parce que je pense qu'il faut, la priorité semble être évidemment quantitativement et qualitativement la question des enfants sur les enfants, avec les phénomènes de groupe, de lâcheté, de pression de groupe, mais il y a aussi quand même et c'est assez fréquent, des enseignants qui, pour des raisons qu'on n'a pas à juger, en tout cas ce n'est pas le sujet ce matin, mais des enseignants qui disent des choses extrêmement désagréables, voire humiliantes, à des élèves, que ce soit par rapport à leurs notes, à leur rapport à la discipline, que ce soit par rapport même à leur physique. Et on décrit quand même un phénomène qui est assez répandu, qui est peut-être lié au malaise d'ailleurs, à la difficulté d'enseigner, ça, c'est un autre sujet, mais en tout cas qui existe et qui n'est pas, à ma connaissance, fait pas l'objet de dispositifs officiels, en tout cas dont on parle très peu dans notre pays, à ma connaissance. Je me trompe peut-être partiellement. Je sais qu'en Allemagne, c'est un sujet, dans d'autres pays, notamment du nord de l'Europe, c'est un sujet, les enseignants font un travail énorme d'ateliers et de formation autour de leurs propres difficultés, parfois, du fait d'enseigner, qui n'est pas le métier le plus simple aujourd'hui.
C'est sûr qu'à l'heure actuelle, être enseignant, c'est pas chose aisée. Après, à notre connaissance, j'ai envie de dire qu'effectivement, on n'a pas de retour par rapport à ça. On sait que, par le biais du dispositif phare, il y a une équipe ressources qui est composée de 5 personnels encadrants par collège.
D'accord.
Qu'il y a 5 personnes par circonscription du premier degré.
D'accord.
Que dans le second degré, il y a des élèves ambassadeurs qui sont formés. Voilà.
Donc, alors ça, c'est intéressant. Peut-être dire un mot sur ces élèves ambassadeurs.
Les élèves ambassadeurs, c'est des élèves, en fait, qui vont être, on va dire, référents, entre guillemets, référents harcèlement au sein de l'établissement. Parce que parfois, c'est plus facile de parler à un camarade que de parler à une personne ayant autorité.
Parce que c'est un sujet complexe, il faut être connu, il faut être formé, c'est...
Oui, c'est quelque chose d'assez
important, en
tout important cas. Assez difficile. Hein. Maintenant, au niveau de l'association, on n'est pas pour l'instant qualifié pour dire oui, il y a harcèlement, non, il n'y a pas harcèlement. Et puis, c'est pas le but non plus de l'association. Voilà.
Est-ce que vous allez faire de la prévention, par ailleurs, des messages de prévention, un travail ? Oui, pour l'instant, vous n'êtes pas sur la question de la formation, ni des enseignants, ni des élèves ambassadeurs. Vous, c'est plutôt par rapport, à partir du moment où il y a des faits, des suspicions de faits, vous intervenez pour accompagner les familles.
Vous êtes
un peu des accompagnateurs de ce moment
voilà,
difficile.
Voilà.
Enfants et familles,
tout à fait. Enfants et familles, les formations sont prévues pour cet été, afin de pouvoir... intervenir dans les établissements qui le souhaitent à partir de la rentrée de septembre.
Je rappelle que je suis avec Madame Annabelle Guichard, qui est présidente d'une toute nouvelle association qui s'appelle La Voix du Harcèlement, association très importante vu le contexte et la gravité de ce phénomène chez les jeunes, elle est très jeune d'ailleurs, dans notre pays. Donc vous êtes avant tout un dispositif d'accompagnement, puisqu'il y a un dispositif obligatoire, par ailleurs, qui existe dans l'ensemble du système d'enseignement français. Est-ce que vous avez aujourd'hui des éléments pour savoir s'il se met en place ? Parce qu'il est assez récent, je crois, cette obligation.
Oui, tout à fait. Il a été rendu, il existe depuis 2021, mais il a été rendu obligatoire dans tous les établissements depuis la rentrée 2023.
Oui, donc c'est très récent.
Donc c'est très récent, c'est quelque chose de tout neuf. Et comme toute chose nouvelle, il faut effectivement le temps que ça se mette, en place, que les personnes soient formées. De cette obligation qui a été rendue obligatoire en 2023, pour la rentrée 2023, il y a maintenant des personnels au sein des établissements, des référents à harcèlement.
D'accord. Mais dans tout le pays, donc c'est un phénomène important. Donc ça se structure. Donc vous êtes, vous, dans ce mouvement, en fait, vous arrivez au moment où les choses se mettent en place. Donc ça veut dire cet été formation des bénévoles, ce sont des bénévoles, c'est ça,
oui.
Qui interviendront dans le cadre de votre association.
Oui.
Donc on va dire du cadre déontologique et du cadre pédagogique défini par votre association. Donc je rappelle, je l'ai pas dit, que le secrétaire général est Monsieur Benoît Borda, qui est,
oui,
assez connu puisqu'il était député. On peut le dire, parce que du coup, on l'a vu dans la presse pendant une partie de ses activités de parlementaire. Donc là, c'est une étape, et je pense que ce serait important de refaire le point dans quelques mois, notamment sur ces formations. sur l'évolution et l'accueil qui est fait à votre association. Il y a d'autres associations qui, comme vous, s'installent dans ce dispositif ?
Pour l'instant, pas à notre connaissance.
D'accord. Je rappelle donc qu'il y a un dispositif qui s'appelle PHARE, qui est rendu obligatoire dans l'ensemble du système d'enseignement en France, éducation nationale et collèges et lycées privés sous contrat. Ça commence dès l'école primaire aussi, hein, c'est ça ?
Bien sûr.
L'école élémentaire, d'accord. Et la maternelle, enfin, c'est une question naïve, mais...
Pour l'instant, en fait, on estime, enfin, les psychologues, hein, du moins, selon les psychologues, ils estiment que il n'y a pas vraiment de harcèlement en maternelle, puisque c'est plus une question de construction de l'enfant. C'est l'enfant qui cherche à se construire, et peut-être pas forcément de la bonne, de la bonne façon... Mais c'est voilà.
Mais c'est pas le moment de traiter ça sous cet angle-là. Quoi.
Exactement.
Oui. Oui, parce que vous l'avez évoqué en off tout à l'heure, mais vous allez peut-être en dire un mot. Il y a la question de la justice qui, elle, a la nature de son fonctionnement, ses modalités et ses délais. Et
oui.
C'est compliqué parce qu'il y a ce qui se passe dans l'école, il y a ce qui se passe dans la famille et avec le soutien d'associations comme la vôtre, le Voix du harcèlement. Mais il y a aussi la justice quand il y a des dépôts de plainte. Et peut-être en dire un mot parce que là. Évidemment, ça, c'est nécessaire, probablement.
Souvent.
Peut-être plus que jamais. Mais par contre, c'est compliqué parce que ce n'est pas les mêmes rythmes, ce n'est pas les mêmes enjeux.
Non, tout à fait. À partir du moment où il y a un dépôt de plainte, il y a forcément une enquête qui est diligentée pour savoir les faits, les éléments. Donc, il y a interrogation des protagonistes, il y a interrogation aussi du personnel enseignant, du corps enseignant. Voilà, c'est effectivement tout un processus qui peut être très très long, très lourd aussi à supporter pour les parents parce que ça n'arrange pas forcément les choses, on va dire, hein, le fait qu'il y ait un dépôt de plainte, un parent qui se retrouve convoqué à la gendarmerie, ça fait jamais plaisir. Voilà. Et c'est en ça aussi que l'association va, dans la formation, on va dire, des bénévoles, il va y avoir ça qui va être pris en compte, à savoir aider les parents lors du dépôt de plainte.
D'accord. Bon, déjà, il faut connaître les mécanismes de la justice, c'est pas toujours simple.
Tout à fait.
Il faut rappeler que vous disiez tout à l'heure que au départ, dans l'enquête, évidemment, la gendarmerie ou la police n'a pas à prendre parti. Elle doit étudier le dossier et tout le monde est présumé innocent, évidemment. Et on n'est pas dans une logique de victime et de coupable, mais une logique de faire le point sur la situation et les faits. Donc ça veut dire que et tout ça, ça prend du temps. Et en plus, ça peut amener des réactions violentes, voire désagréables de l'environnement et notamment des harceleurs ou...
Tout à fait, c'est quelque chose qui est très difficile à vivre pour la famille. Alors déjà, au moment du dépôt de plainte, parfois, selon, on va dire, comment est diligenté en fait l'interrogatoire, j'ai envie de dire, hein, puisque en fait, que ce soit police ou gendarmerie, ils ont besoin d'avoir des éléments, donc ils vont cibler leurs questions. C'est un moment qui est extrêmement compliqué à vivre des deux points de vue. J'ai envie de dire tant du point de vue harceleur que du point de vue harcelé. Donc c'est en ça que l'association en fait va intervenir auprès des familles parce que c'est un moment très très difficile à vivre, très lourd à supporter, surtout côté j'ai envie de dire victime. Parce que c'est à ce moment-là qu'en fait, parfois les parents vont apprendre des choses. C'est aussi à ce moment-là que l'enfant peut avoir ce sentiment de ne pas être reconnu comme étant une victime.
Mmh.
Voilà. Il faut savoir aussi qu'il y a des études qui ont été menées par des psychologues qui montrent que dans 80% des cas, les harceleurs se posent aussi en victime. Donc évidemment, c'est... on va dire une couche supplémentaire qui vient se rajouter en fait auprès de la victime, de dire « mais c'est pas vrai, j'ai jamais fait ça ». En tant que parent, on peut se poser la question, dire regarder un petit peu son enfant, dire « mais bon, généralement on connaît bien son enfant, on sait de quoi il est capable, on sait de quoi il n'est pas capable ». Ceci dit, le harcèlement, ça reste un contexte quand même particulier. Donc, parfois, par, on va dire, défense, effectivement, l'enfant peut avoir des propos, on va dire, très désagréables vis-à-vis des personnes qui l'embêtent et très injurieux aussi.
Bien sûr, oui.
Voilà.
Des réactions, en tout cas, oui.
Exactement. Donc, bon, après, ça, j'ai envie de dire que c'est la partie, on va dire, juridique de la chose. Ce sera à la justice et à la gendarmerie ou à la police lors de l'enquête de faire la part des choses.
Bon, il semblerait quand même que maintenant ces phénomènes soient connus. Donc je pense qu'y compris la police et la gendarmerie ont des formations, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, et les juges bien entendu, aujourd'hui on sait quand même voir les choses derrière, disons, des réactions primaires ou des lectures trop rapides, on sait voir comment ces choses-là se structurent. On le connaît de plus en plus. Il y a d'ailleurs un lien, enfin une frontière ténue entre les violences sexuelles et ce type de violence, parce qu'on sait qu'il y a une dimension souvent dans le harcèlement, l'humiliation, à caractère sexuel. Donc il y a des choses qui peuvent d'ailleurs se conjuguer et traiter différemment, ne serait-ce que par rapport au code pénal. Ce n'est pas du tout les mêmes enjeux. Donc on touche quand même à des choses extrêmement graves, extrêmement fondamentales dans le développement et la place des gens dans leur parcours personnel, hein, parce que ça peut quand même
coûter
très cher.
Oui, ça laisse des séquelles, hein, dans tous les cas, de toute façon, que ce soit peu importe le type de harcèlement. Ça arrive à une période où l'enfant, l'adolescent, est en pleine construction. Donc, ça laisse des séquelles dans sa vie d'adulte. Et c'est en ça aussi que notre association souhaite se développer et travailler avec des professionnels de santé pour pouvoir après diriger les parents auprès de professionnels de santé spécialisés dans le harcèlement.
Oui, c'est-à-dire que les bénévoles que vous allez former vont être formés, voire même accompagnés après dans des groupes d'analyse de la pratique, parce que j'imagine qu'il faut quand même du contenu, parce que ceux qui vont intervenir vont devoir être soutenus aussi. En tout cas, on va devoir vérifier qu'ils continuent à être compétents.
Oui.
Un bénévole, ce n'est pas seulement la bonne volonté, c'est une compétence comme au service d'une action. Donc ça veut dire que les psychologues ou les pédopsychiatres ou les psychiatres qui vont vous aider devront être là peut-être aussi pour aider ceux qui interviennent comme bénévoles eux-mêmes à vérifier leurs compétences et analyser leurs difficultés d'agir, parce que c'est... S'il n'y a pas de garantie, ça peut être dangereux.
Tout à fait. Ben, c'est pour ça qu'on souhaite des formations, vraiment des formations certifiantes, déjà. Et effectivement, un accompagnement par des professionnels de santé.
D'accord. Alors, on sait que dans les écoles, je ne sais pas du tout, on les interrogera à l'éducation nationale. Mais savoir comment ils sont formés, parce qu'en tout cas, le personnel de santé et social est très, très petit en nombre.
Oui.
Et donc, eux aussi, je pense que ça ne va pas être simple pour eux de mettre en place ce dispositif obligatoire.
Tout à fait, c'est-à-dire que les professionnels de santé, psychologues ou pédopsychiatres, voilà, formés vraiment sur le harcèlement scolaire, c'est très difficile à trouver.
D'accord. Alors, je rappelle, puisque nous allons rester là pour aujourd'hui, que je suis avec Madame Guichard, présidente de l'association La Voix du Harcèlement, qui va intervenir dans le monde de l'enseignement pour accompagner les victimes et les parents des victimes, c'est ça l'objectif?
Oui.
En partenariat extrêmement étroit et fin avec le dispositif obligatoire, donc qui s'appelle le dispositif phare. Je rappelle que ça veut dire plan de prévention et d'action contre le harcèlement et le cyberharcèlement dans le cadre du monde de l'enseignement. Je rappelle aussi qu'un numéro vert dédié au harcèlement qui s'appelle le 3018. C'est pas un phénomène rare, hein, c'est 700 000 à 1 million d'enfants qui sont concernés, de jeunes et d'enfants qui sont concernés dans notre pays. C'est pour ça que c'est devenu une cause nationale, avec la mise en place de dispositifs obligatoires. Comment peut-on vous contacter, La Voix du Harcèlement ?
On a tout simplement une adresse mail, La Voix du Harcèlement, donc sans accent, tout attaché, @gmail.com.
D'accord, nous le mettrons avec le replay sur le site internet de Shalom Bourgogne. Je vous remercie, Madame Guichard. Nous aurons l'occasion de se revoir cet automne pour faire un point sur l'évolution du travail de votre association. Et entre-temps, on nous prendra contact avec vos partenaires pour qu'à la radio, nous suivions ce dossier très important de très près. À bientôt.
À bientôt.
Voilà, vous étiez sur Shalom Bourgogne dans votre émission Ganel, mon frère. À très bientôt.
entrevue. Radio Shalom Bourgogne 97.1 FM.